écouter. Donc, nous démarrons tout de suite la série des questions et réponses par Goma, où nous prendrons deux questions. Goma, vous avez la parole. Deux questions à partir de Goma.
Oui, au fond, là-bas, à droite.
Merci, c'est Saïdia Bassimadjid pour votre année fin et Amina Newsblog. Je pose la question à l'équipe chargée de communication de l'équipe dans les cartes humanitaires. Je viens de Haro. J'ai trouvé des 6 Soudanais composés des femmes et des enfants, mais la situation est vraiment déplorable. Je ne sais pas s'il y a de mesures d'urgence. Après les activités d'urgence menées par la CER, et ce réfugié vient du Sud-Soudan très fatigué. Les femmes et les enfants se retrouvent dans une situation très compliquée. Je pense qu'il y a quoi pour une urgence encore pour ces femmes qui méritent un traitement un peu particulier. Je ne sais pas ce que vous prévoyez par rapport à cette situation.
Oui, merci pour cette question. Donc nous avons le chargé de communication du HCR qui est là, qui pourra prendre en compte votre préoccupation. Bonjour, vous avez le micro.
Bonjour. Vous adressez un aspect de la situation des réfugiés sud-soudanais, celle du territoire de Haro. Et effectivement, le plus grand nombre des réfugiés enregistrés par les HCR, la Commission nationale pour les réfugiés, se trouve en territoire d'Haro, en province d'Ituri. Maintenant, en termes de réponse, il y a un site pour les réfugiés, qui est à Biringi. Elle est éloignée de la frontière. On a identifié ce site ensemble avec les autorités et les communautés locales qui vivent ensemble avec les réfugiés. On encourage tous les réfugiés de s'installer dans ce site aussi pour leur propre sécurité. Il y a encore beaucoup de réfugiés qui sont installés vers la frontière avec le Sud-Soudan, pas loin des zones de combat. Et actuellement, il y a plus de 800 réfugiés qui sont au site de Biringi. Il y a tous les services pour les réfugiés. Il y a un service de santé. On va les aussi intégrer, les enfants, dans le système d'éducation congolaise. Donc, il faut que plus de réfugiés entreprendre leur transfert au site de Biringi. Merci.
Oui, merci pour ces explications. Nous restons à Goma pour prendre une deuxième question.
C'est Victor Bigati pour le compte du journal Breaking Up. Mon colonel, j'ai une question à vous poser concernant un général autoproclamé Kabulele, qui est d'accord à faire les traques de Zadef Nalou. Est-ce que c'est possible à ce que, comme vous et le FARDC, vous traquez les Zadef Nalou, et que lui, il a des preuves de celles-là qui sont en train de tuer les gens à Beni, est-ce qu'il y a moyen de coaliser ensemble avec ce général autoproclamé Kabulele?
Oui, merci pour cette question. Mon colonel, vous la prenez.
Merci pour la question. En fait, la coalition entre une force, comme je dirais, ennemie, et les forces de défense et de sécurité, et la MONUSCO, je crois que c'est ce que vous semblez dire. Je crois que c'est bien la question.
Oui, c'est bien ça.
Voilà. Ce n'est pas dans un schéma classique d'opération ou de tactique qu'on conçoit. On est déjà engagé dans une logique, dans une dynamique de reddition, de réduction de la force ennemie, et ce n'est pas, on n'est pas sur un théâtre de négociation avec une force ennemie. Mais nous, notre mission, c'est de neutraliser les forces ennemies en collaboration avec les FARDC. Si vous posez la question de savoir la collaboration avec les FARDC, comment ça se passe, c'est une autre question.
Oui, merci mon colonel. Donc, je vais juste prendre la deuxième partie de la question, parce que vous semblez ici faire la promotion encore en 2017 des groupes Maïmaï qui doivent émerger ça et là. Je pense qu'il faudra qu'on s'entende très bien. Il y a des forces de défense de sécurité de la République démocratique du Congo qui ont en charge la protection des populations, mais aussi à assurer l'intégrité du territoire national. Donc si, vous l'avez dit vous-même, ce général autoproclamé, donc ce qui fait d'abord que ce n'est pas sérieux, on ne s'autoproclame pas général dans une armée régulière. Donc si ce général autoproclamé veut bien apporter sa contribution, je pense qu'il est tout à fait libre d'intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo, mais il n'est pas question que nous soyons là à encourager la prolifération de groupes armés Maïmaï ayant des intentions initiales qui seraient louables. Nous avons vu comment ça s'est terminé, ces histoires avec les Maïmaï, qui au début avaient des intentions louables de défense du territoire, de défense des populations de la communauté, et nous voyons tous aujourd'hui que c'est devenu une menace sécuritaire sérieuse, et que ces gens qui portent des armes illégales, de manière illégale, doivent être neutralisés, mis hors d'état de nuire, parce qu'ils contribuent beaucoup plus à faire souffrir les populations que de les défendre. Donc je pense que les forces armées de la République démocratique du Congo font un excellent boulot, appuyé par la MONUSCO, et ben je pense que ce général-là devrait normalement rendre les armes et puis se mettre à la disposition des autorités congolaises. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Nous ne sommes pas là pour encourager la création de milices ou de groupes Maïmaï, ça et là. Donc nous revenons tout de suite à Kinshasa pour prendre deux questions, une à gauche, une à droite. Oui, une dame, heureusement qu'il y en a une qui est volontaire.
Merci.
Oui.
C'est Elvira Panzou pour les comptes de la radio-télévision à Louange. Mon colonel, dans une déclaration rendue publique le lundi dernier, un centre d'études pour la promotion de la paix et des droits humains avait remis en cause certains éléments du rapport d'experts de Nations Unies sur la République démocratique du Congo. Cette ONG avait demandé également au groupe d'experts de l'ONU de rappeler au Conseil de sécurité de l'ONU la nécessité de renforcer ou de reconfigurer la brigade d'intervention de la mission onusienne. Je voulais juste savoir la réaction de la MONUSCO par rapport à cette déclaration. Merci.
Oui, merci. D'abord, je ne sais pas de quel rapport vous parlez exactement, si c'est le tout dernier qui a trait à l'implication de certains officiers congolais dans le trafic d'or. Si c'est de ce rapport que vous parlez ou d'un autre rapport, il faudra la précision. Merci. Donc, d'abord, il faudra comprendre que le groupe des experts est une entité tout à fait indépendante qui rend compte au comité de sanctions des Nations Unies des différentes enquêtes qui ont été menées sur le terrain, et c'est à partir de ce moment que des décisions sont prises au niveau des Nations Unies concernant ces rapports. Maintenant, que ce rapport soit commenté, ou que ce rapport fasse l'objet de remarques, ou en tout cas d'apports ou d'approches différentes que celles des experts, je pense que c'est tout à fait normal, ce qui traduit d'ailleurs la dynamique qui existe entre les différents acteurs qui analysent et qui apportent leurs commentaires pour enrichir la discussion. Mais toujours est-il que ce rapport a été établi, c'est d'abord un draft qui a été lâché. Alors, oui, le centre, vous parlez du CEPADO, c'est bien ça? Le CEPADO est une structure normale qui fonctionne, qui joue son rôle de sentinelle, qui sonne l'alarme chaque fois que de besoin, ceci est une évidence, mais je pense que restructurer la brigade d'intervention ne doit pas faire partie des compétences intrinsèques de la CEPADO, parce que je ne sais pas s'il y a des experts militaires au sein de la CEPADO pour analyser et pouvoir apporter des correctifs dans la façon de travailler de la brigade d'intervention. Mais toujours est-il que oui, ils ont le droit de formuler leurs remarques, leurs commentaires, mais nous, au niveau de la MONUSCO, beaucoup de mesures ont été prises d'abord pour non seulement revoir la force dans sa fonctionnalité, dans son organisation, pour lui donner un peu plus de mobilité, le rendre plus agile, afin de travailler en étroite collaboration avec les FRDC pour des résultats probants. La pression qui est mise sur les groupes armés est encore palpable, et nous pouvons, à ce jour, dire que des efforts significatifs sont en train d'être faits par les FRDC, soutenus par la MONUSCO, et c'est dans cette optique que nous avons décidé de nous inscrire pour l'année 2017. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je prends une deuxième question ici à Kinshasa.
Guy Oloume, RTNC de Développement. Aude Rossignol, ma question vous est adressée. Face à la recrudescence des épidémies qui frappent actuellement la RDC, est-ce que la réponse des agences onusiennes habilitées se limite-t-elle simplement à combattre les causes par les vaccins? Alors pourquoi vous ne combattez pas d'abord l'origine ou les causes de ces épidémies ou virus? Y a-t-il déjà un plan de contingence pour 2017? Merci beaucoup.
Oui, vous avez la parole, Aude.
Au niveau des origines et des causes, les agences des Nations Unies qui travaillent dans le secteur de la santé ont évidemment leur plan, programme et mettent en place des programmes de développement pour lutter contre l'extrême pauvreté qui est un facteur de déclenchement des maladies. Maintenant, pour les questions plus précises, je vais retourner la question vers nos collègues de OCHA et de l'OMS qui pourront vous apporter plus de compléments. Je ne sais pas, Yvon, si tu veux ajouter au niveau de ce que fait OCHA.
Alors oui, en termes de santé, il y a deux choses qu'il faut comprendre. C'est que les agences qui sont dans l'humanitaire, en fait, elles sont là pour apporter des solutions immédiates, concrètes à des épidémies, à des maladies qui peuvent subvenir dans le pays. Les questions de les racines, les sources de ces récurrentes épidémies ne sont pas forcément abordées par certaines agences humanitaires, mais peut-être plus par des agences de développement et évidemment notamment par le gouvernement congolais. Comme Aude le disait, à la base de ces épidémies, peu importe l'épidémie, peu importe le territoire, la province, il y a des manquements, il y a des faiblesses structurelles, socio-économiques qui favorisent en fait l'éclosion de ces maladies-là.
Oui, merci à Yvon Edoumou pour ces éclairages que nous n'avions pas vus depuis belle durée d'ailleurs. Je rappelle que Yvon est chargé de communication à OCHA. Bonjour et re-bienvenue à la conférence de presse. Donc, sans tarder, je vais me rendre tout de suite à Goma pour prendre deux autres questions. Goma, vous avez le micro. Deux questions, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, c'est Samy Chamamba pour le journal Congo Récis. Je commence d'abord par souhaiter bonne année au colonel Félix Bass.
Merci.
Et à notre directeur aussi. Et aux confrères, merci. Bon, ma question, c'est une question de curiosité par rapport au plan humanitaire. J'aimerais savoir un peu le budget de ce plan humanitaire. Merci.
Vous avez compris? Oui, reprenez votre question, s'il vous plaît. Nous ne l'avons pas bien comprise ici.
Je dis ceci. Par rapport au plan humanitaire 2016, je voudrais...
Un peu de silence, s'il vous plaît, là-bas, à Goma. Goma, un peu de silence. Oui, allez-y, chers collègues.
Oui, je dis ceci. Je voudrais un peu savoir les coûts de budget du plan humanitaire. Merci. Pour le 2017. Merci.
Oui, Yvon, peut-être que vous avez un élément de réponse à ce sujet.
J'ai pas bien entendu la question.
Il parle du coût du plan humanitaire pour 2017.
Ah, pour 2017. Alors, je vais vous décevoir parce qu'effectivement, nous sommes en train de travailler là-dessus. Je ne vais pas le dévoiler ici. Mais vous serez invité à une, comme on le fait chaque année, à une, au lancement du plan qui se verra d'ici le mois de février. Par contre, je peux quand même partager avec vous sur les chiffres de 2016. Donc en 2016, en fait, le plan, le budget du plan humanitaire s'élevait à près de 690 millions de dollars. Et sur ce montant-là, on avoisine à peu près 60-65% d'argent qui a été récolté pour mener les actions qu'on a pu mener durant les 12 mois écoulés.
Merci. Goma, nous restons toujours là pour une deuxième question. Oui, une deuxième question à Goma, s'il vous plaît, rapidement.
Merci beaucoup, c'est Patrick Félix Abeni, pour les comptes journal et graphiques, mais aussi correspondant au cadre des RTBS1. Je vais poser cette question à la dame qui est chargée des affaires humanitaires. la ville de Kindu, un peu récemment, est vraiment attaquée par des épidémies, la rougeole, les choléras. Est-ce que nous pouvons savoir les plans de sortie ou des contingences pour cette population qui est sinistrée, surtout de la commune d'Alunguri? Nous sommes à Kindu.
Oui, merci.
Merci. La réponse, la question est bien notée. Pour la réponse, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vais contacter les collègues en charge des questions de santé, OMS, à moins que OCHA et HCR aient des compléments aujourd'hui.
Oui, merci. Donc, retour à Kinshasa pour deux autres questions, une à droite, une à gauche. Passez le micro.
Merci. Albert Ombani, Merika TV. Salutations à tous nos confrères et auditeurs de Radio Capi. Et je voudrais, Monsieur Félix, porte-parole, vous prier de bien vouloir nous présenter le bilan des activités de la MONUSCO pendant l'année qui vient de s'écouler, tout en soulignant aussi les transactions politiques qui évoluent au niveau de la CENCO et votre position à ce sujet. Merci.
Merci. En fait, je ne sais pas si vous voulez un bilan tout de suite, parce que le temps qui nous reste pour couvrir cette conférence de presse prendra tout, parce qu'il s'agira là de parler, des développements politiques, des développements sécuritaires, ça pourrait nous prendre du temps. Maintenant, vous me posez une question un peu plus directe, qui est quelle est la position de la MONUSCO par rapport aux tractations politiques du centre interdiocésain. Et je pense qu'à ce sujet, d'ailleurs, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies s'est exprimé à ce sujet, mais aussi le secrétaire général des Nations Unies, ainsi que plusieurs autres partenaires et amis du Congo, que ce soit l'Union européenne, que ce soit d'autres entités internationales, se sont toutes exprimées pour marquer leur satisfaction par rapport à ce pas significatif qui a été déjà fait dans le bon sens par les acteurs politiques. Et je pense que leur responsabilité et aussi les actes qui ont été posés sont quand même d'un courage qu'il faut ici souligner. Évidemment, certaines discussions se poursuivent en interne pour voir quels sont les arrangements techniques qui pourraient être mis en place pour que cet accord puisse aller de l'avant. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que cet accord permet, dans un futur très proche, la mise en place d'un gouvernement de transition, si toutefois les discussions aboutissent, mais aussi cet accord permettra au moins à tous les acteurs de se parler, d'échanger et de mettre sur la table leurs divergences afin de voir quelles sont les voies et moyens pour les aplanir. Donc au niveau de la MONUSCO, nous nous félicitons cet accord qui a été signé, qui a bien sûr été l'objet de compromis, mais nous interpellons aussi les acteurs politiques et tous ceux qui sont engagés dans ce processus à faire de sorte que très rapidement les conclusions qui sont consignées dans cet accord puissent voir leur mise en œuvre le plus rapidement possible afin que les délais qui ont été exprimés aussi dans ce rapport concernant la tenue prochaine des élections, que ces délais puissent être respectés conformément à la volonté du peuple congolais et des signataires de cet accord. C'est ce que je peux vous dire. Je prends une deuxième question ici à Kinshasa.
Roger Marley et Lukunga pour le journal Le Paris. Je reviens encore sur le dossier de l'accord. Depuis la Saint-Sylvestre, l'accord politique de la CENCO sauvegarde la paix en République démocratique du Congo. Maintenant, de votre côté, à la MONUSCO, avez-vous ébauché un plan solide pour soutenir sécuritairement cette paix afin qu'elle ne connaisse pas de failles?
Oui, merci. Évidemment que nous nous sommes inscrits dans le soutien de cet accord depuis le départ. Depuis le début, à l'entame du dialogue déjà de la Cité de l'Union africaine, où à plusieurs reprises nous avions réitéré nos appels à tous les acteurs congolais pour qu'ils puissent faire part à ce dialogue, parce que nous estimions que le dialogue était la voie incontournable, la voie royale pour avoir des élections futures apaisées. Évidemment, aujourd'hui, compte tenu des pas que je viens de souligner, significatifs qui ont été faits dans le sens justement de la recherche d'un accord. Je pense tout simplement que la MONUSCO ainsi que les Nations Unies et les autres partenaires qui se sont déjà félicités de la conclusion de ces pourparlers pousseront beaucoup plus loin leur soutien, continueront aussi à faire de sorte que les choses puissent se passer de la manière la plus normale. Toutefois, il faut aussi rappeler aux Congolais que cet accord est le fruit de compromis entre Congolais et que les partenaires qui sont là pour appuyer les décisions qui seront prises de la manière la plus inclusive par les Congolais eux-mêmes. Ça, c'est une précision qu'il faudra faire. Deuxièmement, au plan sécuritaire encore, comme vous l'avez dit, comment est-ce que la MONUSCO soutiendrait au plan sécuritaire cet accord? Je pense qu'il faudra engager, il faut mettre tout ça dans un ensemble. Ça veut dire une approche beaucoup plus holistique, parce que la MONUSCO n'est pas chargée de la sécurisation, que ce soit des personnes, que ce soit de l'intégrité territoriale. C'est une responsabilité souveraine qui revient aux forces de défense et de sécurité congolaises que nous appuyons. Nous serons à côté de ces forces s'il faut assurer une sécurisation éventuelle du processus. Nous mettrons tout en œuvre pour soutenir, accompagner, mais aussi formuler nos préoccupations si le besoin était, mais aussi formuler nos conseils pour que les Congolais puissent se retrouver et aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est le bonheur des populations congolaises. Donc, je repars à Goma pour prendre deux autres questions, parce que, comme je le dis, je prendrai pour prétexte le nouvel an pour prolonger un peu cette conférence de presse, au moins d'une heure, à fait de 15 minutes après l'heure normale. Merci Goma, vous avez deux questions à nous proposer.
Merci beaucoup, c'est Guinée Baloumé pour... Africa Connection, gouvernance de Kinshasa. Alors, ma question est de savoir, est-ce que la résolution 2277 a-t-elle réussi au moment où les élections ne se sont pas tenues dans le mandat, et mais également il y a de massacres répétitifs dans le territoire de Béni? Merci.
Oui, merci. Donc, votre question est un peu alambiquée, parce que si la résolution 2277 a réussi, je pense que vous n'avez pas bien compris quel est l'objet ou l'objectif d'une telle résolution. La résolution est une feuille de route qui est donnée à la mission des Nations Unies, particulièrement celle qui est là, donc la MONUSCO, pour conduire et mener des activités pendant toute la durée de cette résolution qui généralement dure un an. Et nous allons vers éventuellement le vote d'une nouvelle résolution au mois de mars, parce que éventuellement, parce que c'était au mois de mars, je pense bien, si mes souvenirs sont exacts, que la 2277 avait été prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, je pense que la résolution est très claire. Elle définit un cadre dans lequel la MONUSCO évolue. Elle définit aussi un cadre dans lequel, je pense, les autorités congolaises se sont inscrites, que ce soit les acteurs politiques, que ceux de la société civile, puisque la résolution 2277 est régulièrement convoquée au devant de la scène, au devant des pourparlers politiques, au devant des activités politiques qui sont menées pour demander une conformité. Parce que la résolution 77 aussi a tenu compte de la constitution du Congo qui permet à la MONUSCO de soutenir les activités des autorités congolaises, de soutenir les populations congolaises, justement en conformité avec la constitution de la RDC. Oui, maintenant vous parlez de l'insécurité qui est un peu observée dans le territoire de Béni. Peut-être que le colonel pourra me compléter plus tard. Oui, il y a effectivement certaines tueries qui sont enregistrées encore ça et là, dans le territoire de Béni particulièrement, mais aujourd'hui nous avons vu aussi qu'il y a une forme de basculement vers le territoire de Lubero, particulièrement aux alentours de Butembo, etc. Nous avons vu qu'il y a eu des tueries à Bualanda, à Luhanga, etc. C'est vrai. Et tous les acteurs militaires, que ce soit la force, que ce soit les FRDC, sont sur le terrain et travaillent d'arrache-pied pour neutraliser ces groupes armés. Récemment encore, je pense que le colonel l'a indiqué lorsqu'il faisait le survol de la situation sécuritaire dans le territoire de Béni, il a bel et bien indiqué une opération qui a été lancée avec les FRDC au niveau de Old Spice Camp et qui a permis aux hélicoptères de la MONUSCO, mais aussi aux troupes de la MONUSCO, d'appuyer l'action des FRDC sur le terrain. Donc voilà globalement ce que je peux vous dire sur ces tueries qui sont observées aussi ça et là, qui sont difficiles à freiner compte tenu justement de la dimension du territoire, mais compte tenu aussi de l'impraticabilité de certains endroits où nous avons du mal aussi à avoir une présence de manière régulière. Donc voilà ce que je pouvais dire. Je reviens ici à Kinshasa. Je prends deux questions. Oui, RFI, donnez le micro à RFI. S'il vous plaît, oui.
Seigneur les RFI, donc c'était à propos de Kananga. Vous avez parlé d'un déploiement de casques bleus là-bas pour protéger les civils. Je crois que la semaine dernière, les bilans font état de 28 à 100 morts, selon si c'est le bilan du gouvernement ou de l'opposition. Et la deuxième chose, c'est que la chef de l'équipe de pays, enfin de la communication de l'équipe pays, a parlé de la RDC, des craintes par rapport au fait que la RDC devienne une base arrière pour la rébellion sud-soudanaise. Et je voulais savoir, en gros, qu'est-ce qui motivait ces craintes? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'hommes en armes qui sont en train de traverser sur le sol congolais à l'heure actuelle?
Oui, merci pour votre question, Sonia. Oui, vous avez parfaitement raison de soulever la question de Kananga, où nous avons vu depuis un certain temps une recrudescence de la violence enregistrée ou en tout cas menée par les éléments d'un chef coutumier qui a été tué au mois d'août. Il s'agit de la milice Kwame Nsapu qui, depuis un certain temps, mène certaines activités dans ce territoire. Oui, nous avons vu aussi que beaucoup de gens ont perdu la vie à cause de ces attaques répétées de la milice Kwame Nsapu. Et nous avons aussi enregistré beaucoup de déplacements de population, ce qui est évidemment une préoccupation majeure, aussi bien pour la MONUSCO, les autorités congolaises, mais aussi pour les agences du système des Nations Unies qui s'occupent de ce domaine, de ce volet humanitaire. Évidemment, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent leurs opérations contre cette milice Kwame Nsapu dans cette région, particulièrement entre Tchikapa et les autres localités de cette province, Timbulu, etc. Mais la MONUSCO, au-delà des actions qui ont été mises pour non seulement soutenir les autorités provinciales, les autorités locales dans la recherche d'une coexistence pacifique, parce que nous pensons aussi qu'il faut des interventions autres que des interventions armées pour sensibiliser, recueillir un peu ce qui se passe dans cette région-là et prendre, mettre en place des mécanismes qui permettent de juguler cette violence ou en tout cas de mettre un terme à cela. C'est dans ce cadre-là que la MONUSCO a effectivement déployé des hommes dans cette province, environ une centaine de casques bleus onusiens, pour contribuer à restaurer la paix dans cette région-là, aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Maintenant, je reviendrai peut-être sur votre deuxième question, c'est bien ça, Sonia, qui a trait justement à l'impact négatif que suscite la présence des Sud-Soudanais dans cette région. Je pense qu'il faut d'abord faire la différence. Il y a les réfugiés sud-soudanais, qui sont des civils qui ne sont pas en armes, qui sont pris en compte par les agences des Nations Unies dans le cadre de l'assistance humanitaire qui leur est due. Et il y a aussi l'autre aspect de la présence des sud-soudanais que nous avions, nous avons eu à en débattre ici en long, en large et en travers, concernant d'abord l'entrée de Riek Machar et de ses hommes en RDC, les actions qui ont été menées par la MONUSCO dans le cadre de l'assistance qu'il fallait donner à ces gens dans le parc national de la Garamba, l'extraction et les soins médicaux qui leur ont été donnés, mais aussi le cantonnement et la prise en charge qui est aujourd'hui faite par la MONUSCO dans le cadre justement de l'assistance à cette présence sud-soudanaise en RDC, aussi bien à Bunia, à Dungu qu'à Munigi, dans la région de Goma. Oui, depuis un certain temps, ça pose problème, parce que même au sein des réfugiés, il a été noté la présence de certains éléments armés, ce qui pose un problème, bien sûr, et qui, bien sûr, empêche les agences de faire correctement leur travail, parce qu'il faut d'abord désarmer ces gens-là, mais aussi nous avons aussi observé dans la région de Yambio non seulement une présence assez inquiétante de nouveaux réfugiés qui sont dans cette région, mais aussi la présence de certains éléments armés a été effectivement rapporté ces derniers temps, et les FRDC sont sur le terrain. De la preuve, ils en ont capturé certains ces temps derniers, ça veut dire pour les neutraliser et mettre un terme à cette menace qui pourrait éventuellement provoquer des conséquences beaucoup plus dramatiques qu'on ne le pense, compte tenu justement de la présence de ces gens dans cette région. Parce que vous savez, les mesures ou en tout cas les actions qui pourraient être prises de l'autre côté de la frontière ne sont pas évacuées d'une certaine façon. C'est d'ailleurs pour ça que le HCR a pris la résolution de relocaliser tous ces réfugiés au-delà de la limite frontalière où ils sont installés. Donc vous avez raison, c'est une préoccupation, mais je ne pense pas qu'elle soit une base arrière tout de suite de la rébellion, parce que les FRDC sont sur le terrain pour faire le travail. Donc oui, je pense que je repars à Goma pour prendre quand même une question. On a déjà épuisé les deux questions de Kinshasa. Goma, vous avez une question? Goma?
Goma, tout est clair, il n'y a pas de question.
Oui, je vais. Oui, Goma est en panne apparemment. Donc je reviens à Kinshasa, je prends deux autres questions. Oui, donnez la question à la dame. Les dames d'abord, papy. Passez le micro s'il vous plaît. Oui, allez-y madame.
RTNC 2 Développement, Laetitia Massella. Je pose ma question au nouveau porte-parole militaire. Il a parlé tout à l'heure des inondations qui a eu au Congo central et de perte de vie humaine. J'aimerais savoir l'appui de Nations Unies par rapport à ces sinistrés au Congo central.
Oui, monsieur le porte-parole militaire. Oui, je pense que vous êtes trompé d'interlocuteur. C'est plutôt ma collègue Aude qui a passé cette information. Aude, vous avez le micro. Un peu de silence, oui, s'il vous plaît.
Donc voilà, c'est une information qui a été partagée par OCHA. Il y a déjà une série de choses qui sont mises en place en collaboration avec le gouvernorat de la province. Peut-être Yvon pourra donner plus de détails par après, mais j'avais cité tout à l'heure une première apport en vivres, article ménager, et un appui pour la relocalisation des personnes sinistrées. Médicaments et vivres. Je ne sais pas si Yvon, il y a des choses supplémentaires que ce qui a été dit tout à l'heure.
Oui.
Je pense qu'au-delà de ce que tu viens de dire, Aude, il faut juste comprendre que cet appui qui a été donné depuis quelques jours par les agences qui sont présentes à Boma est assez minime, petite par rapport aux besoins de toutes ces personnes-là. On parle de 24 000 personnes qui ont été sinistrées. Comme on l'a dit tout à l'heure, le gouverneur, avec le comité de crise qu'il a instauré, estime qu'ils ont besoin de plus de 2 millions de dollars pour des actions urgentes et aussi pour des actions un peu plus dans le plus long terme. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire, et le gouverneur et les agences qui sont présentes à Boma essaye de taper à toutes les portes afin de pouvoir recueillir l'aide nécessaire pour ces personnes-là.
Oui, merci. Je ne sais pas si Goma est de retour avec nous. Goma, pour une dernière question.
Oui, Goma, il n'y a plus de questions.
Oui, une question à Goma, une seule. Une question. Ah, il n'y a plus de questions. Donc je reviens à Kinshasa pour prendre deux questions. Une à droite. Et une autre à gauche. Papy, je... Oui, le Symphorien, oui, vous gardez le micro.
Merci beaucoup pour le micro. Je suis M. Alain Botoko, je suis reporter indépendant. Et je voulais une petite précision, M. Basse, si vous voulez. Parce qu'il y a toujours un plan B qui est souvent cité par la CENCO. Est-ce que si ce plan A de l'accord n'est pas appliqué, est-ce que vous êtes prêt à accompagner ce plan B? Et selon les dernières indiscrétions que nous avons, c'est probablement la mise sous tutelle de la RDC. Est-ce que vous êtes prêt à accompagner ce plan-là? Merci beaucoup.
Oui, merci. C'est vous qui parlez de plan B. Je ne connais pas la quintessence de ce plan B, donc nous ne pouvons pas soutenir ce que nous ne connaissons pas. Et je pense qu'aujourd'hui, tout est sous de bons offices. Un peu de silence, s'il vous plaît, là, dans la salle. Je pense que aujourd'hui le train est en marche. Évidemment, il y a des correctifs et des réaménagements à apporter pendant ce trajet-là, mais je ne pense pas que l'heure soit à un plan B inconnu que vous seuls connaissez. Je prends une deuxième question ici à gauche, oui. Symphorien, oui, vous avez le micro, gardez-le.
Merci pour la parole.
Un peu de silence. Soyons généreux en 2017. Oui,
merci pour la parole, Symphorien Katumba, pour les comptes de l'explorateur. Et j'ai une préoccupation en intention de porte-parole Félix Basse. L'accord inclusif du 31 décembre 2016, par le biais des bons offices de la CENCO, un processus que la MONUSCO fait partie. Quel rôle majeur que la MONUSCO joue en termes de suivi et de garde-fou? Je vous remercie.
Oui, merci. D'abord, il faudra préciser que la MONUSCO n'a pas pris part aux discussions du centre interdiocésain. Il faut faire cette précision. C'est pour parler, concerner les acteurs politiques congolais qui se sont tous mis autour d'une table. Et je saisis d'ailleurs cette occasion pour non seulement féliciter, mais remercier tous les efforts qui ont été menés par la CENCO pour amener tous les acteurs politiques autour d'une table, mais aussi féliciter ces acteurs politiques qui ont fait preuve de courage et qui ont pris des responsabilités historiques devant la nation congolaise pour que on puisse aller vers une période de transition qui nous mène vers des élections libres, crédibles et transparentes. Maintenant, vous parlez de la garantie. La MONUSCO n'est pas garante de cet accord. Je pense que, tout simplement, notre disponibilité à accompagner ce processus, parce que nous avons exprimé notre satisfaction à l'issue de la conclusion de cet accord le 31 décembre dernier, et nous sommes prêts à poursuivre nos efforts, à accompagner le processus si de besoin était, et nous sommes toujours dans cette dynamique-là. Nous ne le faisons pas seuls. Il faut aussi reconnaître que certains acteurs, même extérieurs à la RDC, qui sont dans la sous-région aussi, contribuent à aplanir toutes les divergences, mais aussi certains autres amis de la RDC se sont tous impliqués dedans, avec bien sûr le soutien de la population congolaise qui, jusqu'à présent, estime tout simplement qu'elle a besoin de paix, et c'est dans ce cadre-là que les acteurs politiques, la société civile, la CENCO se sont tous inscrits pour que puisse prévaloir la paix de manière durable en République démocratique du Congo. C'est donc sur ces termes-là que je vous renouvelle encore une fois nos meilleurs vœux de bonnes et heureuses années, et je vous dis fin de cette conférence de presse. Mais ne bougez pas, il y a un cocktail qui est offert immédiatement après cette conférence de presse. Merci d'avoir été parmi nous, à mercredi prochain.
Nous insistons, s'il vous plaît, on peut rester.